Bienvenue à tous et à toutes sur Radio B. Il est l'heure de Résonance. Résonance, une chambre d'écho, un réceptacle de ce qui se vit, s'entreprend, s'invente, s'expérimente, s'explore, se crée, se réfléchit, se pense. Une émission réalisée et mise en onde par Simon de Borne, au microphone Alain Goudard. Résonance sur Radio B, Impression d'Italie, Emma Vinci, Fibiana. Et là, nous venons d'entendre Toccata all'Offertorio, composé par Domenico Zippoli, un compositeur né en 1688 et mort en 1726. Et cette Toccata all'Offertorio était interprétée par Alessandro Maggini sur un orgue Oratorio Bardi, construit par le facteur Traeri en 1699, un instrument installé dans l'église San Quirico di Vernio en Toscana, une ville Vernio située à une quarantaine de kilomètres de Florence. Cette Toccata all'Offertorio est extraite d'un disque entièrement consacré à la musique pour orgue et principalement enregistré sur cet orgue par Alessandro Maggini sur cet organo dell'Oratorio Bardi di Vernio. Une publication Emma Record, Emma Vinci. Alors, nous sommes toujours en Toscane et aujourd'hui, nous faisons halte dans la ville de Fibiana, toute proche de Empoli. Là, à Fibiana, se sont installés depuis de nombreuses années un label discographique Emma Vinci. Ce label a été créé par un homme engagé, généreux, humain, exigeant, innovant, visionnaire, Giuseppe Scali. En effet, en 1993, Emma Vinci naît et se développe. Et se développe ce label, Emma Vinci, sous l'impulsion de Giuseppe Scali, un laboratoire et un centre d'échange pour la musique contemporaine au service d'un groupe d'amis, de compositeurs et de musiciens. Il est l'une des premières, sinon la première réalité en Italie à laquelle il a été confié de nombreuses activités dans ce domaine de la musique contemporaine. Giuseppe Scali nous accueille au sein de son studio d'Emma Vinci en octobre dernier, en compagnie du compositeur Alessandro Maggini qui assurera la traduction au cours de cet échange. Buongiorno, Giuseppe Scali.
Buongiorno Alain.
Merci de nous recevoir ici à Fibiana, je dirais au cœur de cette énergie fabuleuse que sont les studios et justement le label Emma Vinci, qui est un label discographique qui depuis existe déjà depuis un certain nombre d'années, mais qui a pris depuis un certain temps, un virage assez prononcé en direction de la musique contemporaine et de valoriser de plus en plus justement la musique contemporaine. Alors, peut-être pour commencer notre échange, comment ça vous est venu de vous lancer dans une aventure comme celle-ci, de faire des disques et d'accompagner justement les interprètes, les compositeurs dans cette démarche? Alessandro Maggini va traduire nos propos aussi en même temps.
Come ti è venuto in mente di iniziare questo percorso per creare questa realtà che è anche un laboratorio che mette insieme compositori, esecutori?
Sì, il termine è giusto. La nostra attività è nata come laboratorio. Siamo negli anni Ottanta. Metà anni 80, ovviamente facevo musica, a quei tempi ero musicista, e mi è venuta l'idea, conoscendo il computer, di realizzare un percorso nel piccolo laboratorio che io avevo insieme ad altri compositori, musica nostra praticamente.
Oui, en effet, c'est le terme juste, le laboratoire. Il a commencé dans les années 80. Il faisait les musiciennes et il avait décidé de commencer cette recherche dans un petit laboratoire ici à Fibiana.
Ici.
Ici, dans cette maison hein, où nous sommes aujourd'hui, donc c'est là où tout a commencé.
C'est un espace donné de mon père, ouais. Lui, pardon, je parle italien, lui faceva il falegname, ha donato questo spazio qui metà a me, metà a mio fratello che studiava architettura, e in questo piccolo laboratorio non sono riuscito a creare l'Apple, ma comunque abbiamo in qualche modo, perché anche l'Apple fu creata da uno spazio donato dal padre a Job, però abbiamo sì iniziato a creare delle nostre composizioni, che l'attività si è formalizzata nel 1993 chiamandola appunto Emma Vinci.
Cet espace où nous sommes, c'est le même espace où il avait commencé, et c'était son père qui était un artisan, qui avait donné cet espace à lui, à son frère Luciano, qui est architecte, et il a commencé ici à travailler, et à créer aussi. Et il dit, nous avons commencé comme la Apple, qui c'était pareil, une petite réalité donnée par le père de Steve Jobs. mais oui.
Oui, sì, et aujourd'hui, Emma Vinci.
Sì, devo dire che il fondamentale effettivamente sì. È stato l'Apple. A quei tempi, assieme a mio fratello, appunto, abbiamo acquistato questo piccolo computer e lì abbiamo capito che potevamo registrare. Potevamo fare delle nostre produzioni sia nella parte audio, nella parte grafica, potevamo creare un archivio di possibili collaboratori, clienti, e infatti i primi programmi che abbiamo usato sono programmi di archivio, quindi di tutta la parte che ci ha permesso poi di automatizzazione dei dati, i primi programmi Sound Designer, che è appunto multitraccia digitale, e anche poi i programmi Encore Finale, che ci hanno permesso di lavorare sulla notografia. E dalle prime composizioni poi nostre si sono ampliate, arrivavano altri compositori i quali avevano l'esigenza di pubblicare, per questo è nato la Emma Vinci.
Oui, ils ont commencé l'activité de la EMA, c'est-à-dire au début de 90, a commencé un rapport avec la découverte de l'Apple et les progrès technologiques de l'Apple. Mmh. Et Giuseppe était, avec ses collaborateurs, les pionnieri, on dit en italien,
c'est-à-dire les pionniers,
qui utilisaient les premières ressources de la Apple pour enregistrer, pour faire des archives, pour l'organisation de ces archives et donc l'automatisation de tout ça. Et aussi pour créer leur même composition et après ouvrir aux autres musiciens et compositeurs pour faire des éditions discographiques.
Ce qu'on peut dire quand même, c'est que depuis ce point de départ, ici même, dans cette maison, aujourd'hui, Emma Vinci a réussi en partie à pouvoir s'inscrire très fortement, de manière très visible, dans le paysage aujourd'hui musical, de la production discographique, puisque c'est quand même un des labels importants d'Italie.
Sì, è proprio da qui, piano piano, si è imposta come una delle case discografiche più significative in Italia, soprattutto per la creazione contemporanea.
Sì, sì.
Sì, abbiamo iniziato, fondamentalmente noi abbiamo sempre lavorato nell'ambito della musica colta, anche se abbiamo sempre cercato di espandersi un po' a tutti i generi, quindi quelli che passano dalla world music, per esempio, con la ricerca proprio del linguaggio musicale, con altri linguaggi che escono dall'Occidente nostro, alla musica classica e quindi la musica antica fino alla musica moderna, però appunto noi lavorando nella composizione un occhio di riguardo è sempre stato per la composizione contemporanea.
Ils se sont toujours occupés de la musique cultivée, mais sans limité à ça. Ils étaient ouverts à la world music, à la musique classique traditionnelle, mais évidemment la recherche porte toujours à s'occuper principalement de la contemporanéité. C'est pour ça que l'intérêt pour ce qu'on produit aujourd'hui, c'était l'intérêt majeur, non, pour,
tout à fait. J'imagine aussi Giuseppe Scali qui a, l'évolution technologique aussi qui est venue petit à petit entre le démarrage des années 80, aujourd'hui dans les années 2020 maintenant. Il y a une évolution considérable de toute la technologie et il a fallu certainement s'adapter énormément à l'évolution de ce contexte technologique.
Si, alors, mente mia e dei miei collaboratori c'è sempre stato come modello, possiamo usare questo termine, un triangolo che è formato da per ogni angolo del triangolo, quindi da una parte c'è la parte artistica, dall'altra parte c'è la parte tecnologica e dall'altra parte la tecnica.
Il y a un symbole qui synthétise tout ça, c'est un triangle où il y a la création artistique en haut et en bas, à la base, la technologie, la recherche technologique
et la tecnica.
Oui.
Da una parte c'è la tecnologia e da una parte la tecnica.
La tecnologia e la tecnica.
E quindi come la tecnologia viene usata. Credo che queste tre cose devono essere in equilibrio. Perché io posso avere un'ottima strumentazione, ma devo essere anche padrone di usare quest'ottima strumentazione.
Il faut avoir un equilibrio entre ces
trois notions.
Parce que il faut les connaître e savoir comment utiliser du point de vue artistique, évidemment.
Quindi quando abbiamo comprato un microfono abbiamo preferito conoscerlo fino in fondo di tutte le possibilità prima di passare a comprare magari microfoni più costosi e così lo stesso sui programmi. Abbiamo fondamentalmente sposato dei programmi che secondo noi erano importanti, programmi intendo dei software sul computer. E ovviamente per quanto invece riguarda l'hardware del computer, lì siamo sempre stati ai passi con gli sviluppi, cioè quando esce un computer nuovo fondamentalmente noi abbiamo sempre abbracciato, cioè abbiamo acquistato il nuovo computer e quindi anche la tecnica e soprattutto la parte artistica in qualche modo si dovevano equilibrare con questo nuovo mezzo.
Quindi il concerto è che se ne parla tecnologia, être esclave della tecnologia, il faut bien connaître, per esempio, avant de passer à acheter un nouveau microphone ou un nouveau logiciel, comprendre toutes les possibilités et avoir la capacité de contrôler et d'utiliser du point de vue artistique toutes ces possibilités. Et parallèlement, être toujours à jour avec le développement technologique. Et ils ont, à partir des années 80, ils étaient toujours synchronisés avec cette évolution. Et ils étaient les premiers à voir les nouveaux ordinateurs Macintosh ainsi que les logiciels pour travailler la musique.
Depuis de nombreuses années, on évoque la disparition du CD, mais vous êtes aujourd'hui toujours en train de fabriquer des CD tout en développant des choses par Internet et en utilisant d'autres possibilités. Quel est votre point de vue, justement?
Alors, vorrei prima dire una cosa, che per quanto riguarda, noi non abbiamo mai seguito dei modelli standard o comunque dei modelli anche esterni, abbiamo sempre tenuto presenti ovviamente i modelli anche di suono, oltre che di produzioni esistenti, ma fondamentalmente abbiamo sempre seguito una nostra immagine, io parlerei, quindi un qualcosa che viene da dentro e che in qualche modo la persegui, e indipendentemente da tutto quello che accade fuori, perché spesso dicono adesso va di moda questo, vabbè, quello normalmente nella nostra attività non l'abbiamo seguita.
Avant de répondre à la question de CD, il veut ajouter que Giuseppe et ses collaborateurs n'ont jamais suivi des modèles déjà constitués à la mode, donc on doit avoir.
Ils ont
toujours cherché leur propre modèle qui vient de l'intérieur. D'une exigence artistique que Giuseppe et ses collaborateurs portent, et c'est sur cette forte motivation
que se construit ce développement.
Se construit leur propre modèle qui peut-être va se combiner avec des autres modèles qui existent déjà,
mais c'est ça qui conduit leur démarche.
Pas nécessairement.
Giuseppe Scali.
Per rispondere invece alla domanda che hai fatto precedentemente, devo dire che è stato per me illuminante, anche se in qualche modo avevo intuito che si andava in quella direzione, una figura che è arrivata dall'America, un rappresentante, ma anche che viaggiava fra le etichette in Italia. Siamo alla fine degli anni 90, mi sembra 97, 98, 97 forse, e che appunto è venuto lì, era un rappresentante della Orchard, a quei tempi una distribuzione digitale, il quale ci parlò un po' del destino di quello che secondo appunto anche gli americani sarebbe successo, cioè che piano piano la fisicità dei prodotti sarebbe scomparsa e invece diventava importante iniziare a realizzare dei prodotti digitali. E insomma, ho creduto molto a questa situazione, anche se ci dicevano che le major, le etichette maggiori, ovviamente ancora erano indietro, a loro non li interessava proprio perché c'erano già ancora, insomma, negli anni 90 delle grandi vendite. La SIAE stessa, non, italiana, ma a livello mondiale, ma soprattutto italiana, non era preparata per i diritti, insomma, per le ripartizioni e tutto. Però lui sperava, sapeva che in qualche modo il digitale avrebbe preso il sopravvento. Quello, ecco, quell'epoca lì per me è stato importante, e già a fine anni 90 appunto abbiamo dato i primi prodotti in distribuzione digitale.
Allora, cette choix de passer, par exemple, au digital, vient de loin, parce que pour Giuseppe a été très important les rencontres avec un technicien, un représentant, qui déjà dans les années 90, plus précisément 97, lui avait dit que le futur... ce n'était pas la physicité,
oui,
mais c'était la distribution digitale. Donc, dans 97, c'était quelque chose de futurible,
très futuriste,
effectivement. Futuriste. Et Giuseppe est resté très impressionné de cette chose, et il a commencé à réfléchir et déjà à commencer à organiser, à produire avant le nouveau millennio,
des
distributions digitales.
Tengo a citare questo nome, che era Cesare Ponza, fra l'altro si chiamava così, viveva in America,
Cesare Ponza.
Sì, in America, però di origine ovviamente italiana, infatti parlavamo in italiano, però è stata una figura appunto interessante, proprio perché da lì ho capito che la nostra etichetta, pur essendo piccola, perlomeno per quanto riguarda la visibilità, aveva delle grandi speranze.
Oui, oui. Même si, si la EMA c'était une petite
entreprise,
mais il a une grande visibilité, il avait déjà une visibilité à cause de ses choix futuristes.
Giuseppe Scali, vous accompagnez de nombreux compositeurs aujourd'hui. Combien de compositeurs fréquentent ou sont en collaboration avec Emma Vinci, français ou italien? Une majorité d'italiens, mais ça représente quand même un suivi, un compagnonnage important vis-à-vis des compositeurs.
Sì, quindi, quali sono i compositori, soprattutto italiani, con i quali la EMA collabora attualmente?
Sì, no, preferisco che anche Alessandro traduca, perché non so se poi viene pubblicata, così rimane sia italiano che francese. È una domanda molto difficile, perché è molto difficile? Perché temo sempre di dimenticare qualcuno, che magari poi alla fine sono i più vicini che altri, no? Allora, ci sono state sì delle tappe molto importanti. Allora, inizialmente abbiamo iniziato con Cameron Cachet, proprio su un linguaggio nuovi, è stato il primo compositore che noi abbiamo prodotto. Poi da lì
allora,
devo...
pardon, il a peur a répondre, parce qu'il a peur d'oublier quelqu'un.
C'est plutôt quelque chose de, voilà, d'approximatif.
Il a commencé avec Cameron
Cachet.
Après Cameron Cachet, abbiamo lavorato molto vicino con Salvatore Di Gesualdo, che era questo fisarmonicista, e sì, che praticamente ci ha fatto conoscere poi un po' tutta la scuola di fisarmonica.
Deuxième, c'était Salvatore Gesualdi, che è un gran maître d'accordéon, e che ha permis a Giuseppe di connaître tutta l'ambiance dell'accordéon che était en train de se développer très rapidement.
Poi abbiamo prodotto molti compositori che era, appunto, non sto a citare tutto, ma cito solo le tappe per noi importanti, ma non perché il compositore forse è più importante di altri, ma perché ha aiutato a dare una direzione particolare o comunque significativa alla EMA. Quindi, allora, indipendentemente
dei compositori che va a fare, sono in particolare perché sono delle persone che hanno donné quelque chose per permettere a EMA d'avancer, un input pour prendre une direction.
Il y a vraiment un portage, une collaboration proche.
Genre, in tutti gli anni 2000 noi consideravamo la contemporanea all'interno della pubblicazione di musica classica, perché eravamo convinti che mettendo insieme musica classica e musica contemporanea in qualche modo si poteva aiutare l'ascolto e si poteva trovare più facilmente delle persone che si avvicinavano e si avvicinassero.
Les années 2000, ils avaient toujours réuni la musique classique et la musique contemporanea come
un seul
bloc.
Poi avevamo maturato un'idea concettuale qui all'interno nostro, io e i miei collaboratori, in modo particolare con Marco Cardone, che era importante comunque creare delle generazioni di compositori.
A partir des années 2000, avec la collaborazione di Marco Cardone.
Oui, parce que Emavici Grossi et Marco Cardone est arrivé.
Oui, ils ont décidé de commencer à créer quelque chose, un rapporto a nouvelle génération.
Génération.
Donc, quelque chose de générationnel.
Résonance sur Radio B, Impression d'Italie, Emma Vinci, Fibiana. Nous venons d'entendre une œuvre du compositeur Luca Antignani, qu'il a intitulée « Nommé non nommé », une œuvre pour six voix de femme et piano. Elle a été imaginée à partir de la poésie d'un des grands poètes italiens du XXe siècle, et il s'agit de Mario Luzi. Elle est interprétée par les six voix solistes de Résonance Contemporaine, au piano Ancuzza Aprodu, et j'ai eu le très grand plaisir et honneur de créer et de diriger l'œuvre que vous venez d'entendre. Nommé non nommé fait donc partie d'un album discographique réalisé en collaboration avec Emma Vinci.
Ecco, e poi ci sono stati invece dei contatti significativi, come dicevo prima, perché fondamentalmente hanno consolidato l'idea di specializzarsi nell'ambito della musica contemporanea, e fra questi devo parlare qui del nostro amico Alessandro Magini, devo parlare di Alessandro Solbiati, con il quale anche sì, con lui abbiamo scambiato molte teorie su come condurre la musica contemporanea. Siamo all'inizio del secondo decennio del 2000. Devo parlare anche di Alain Godard, perché forse, come prima fra di noi parlavamo, il CD Frasi nella luce nascente è quello che forse è proprio stato come si può dire, l'emblema di partenza, perché da lì veramente ci siamo specializzati sulla musica contemporanea, e lì abbiamo appunto già una piccola raccolta di compositori. E dopo da lì, sì, grazie anche al contributo per la SIAE che ci ha incoraggiato, abbiamo iniziato veramente a intraprendere un percorso dedicato quasi esclusivamente al compositore, anche se facevamo l'interprete, quindi dico magari solo alcuni nomi, come si diceva prima, Marcello Panni ci ha dato un grande aiuto, cioè come ovviamente lavorare con Sciarrino, ma lavorare con Galante, lavorare con insomma tutti i compositori che poi Boccadoro, Dall'Ongaro, appunto così
su due piedi, estremamente importante.
Però insomma sì, abbiamo cercato di tenere alta la qualità delle produzioni, affinché potessimo essere un punto di riferimento per tutta una serie di compositori diciamo viventi.
Oui, et Giuseppe a eu l'occasion de faire des rencontres qui ont permis en particulier de s'occuper surtout de musique contemporaine.
C'est
donc
ça.
De faire un choix très, très important. Il a nommé un certain Alessandro Magini,
sì,
Alessandro Solbiati,
et
Alain Godard, parce que c'est quelqu'un qui a permis de prendre une direction particulière. Il a rappelé les rapports avec Alain. Pour la création du CD Frasi nella luce nascente,
qui était Luzi,
oui, dédié au poète Luzi, italien Mario Luzi, et qui avait réuni plusieurs compositeurs pour des œuvres originales sur la musique de Mario Luzi, et qui pour Giuseppe a été un CD symbolique parce qu'a permis de rencontrer ses compositeurs et de faire quelque chose de particulier sur ça. Après, ça, les rapports avec la SIAE et la SACEM italienne,
voilà,
français, qui a permis avec des financements dédiés à la réalité particulièrement intéressante dans le domaine de la discographie, entre lesquels l'AEMA, a permis de s'enlargir et de prendre contact avec grand nombre de compositeurs très actifs en Italie, entre lesquels Salvatore Sciarrino,
ho citato Panni,
Marcello Panni, Galante et beaucoup, oui. beaucoup d'autres.
Les grands compositeurs d'aujourd'hui.
Oui, toute la réalité.
La réalité véritable de
l'Italie.
Travaille avec Emma Vinci.
Travaille avec Emma Vinci.
Sì, ho citato Panni perché lui è stato importante in quanto abbiamo iniziato il percorso di mappatura, si può chiamare così, comunque di una grande documentazione dell'opera da camera italiana. L'opera da camera, l'opera è una tradizione puramente italiana. È un grande peccato, a mio avviso, che l'opera contemporanea non è considerata nei teatri italiani, nonostante sia la tradizione, ma questo non per rinnegare la vecchia nostra tradizione, che è altissima e deve essere documentata, però se guardiamo di nuovo c'è veramente poco. Quindi questo sforzo, ringrazio tutti i compositori che fondamentalmente ci hanno aiutato nel realizzare questa mappatura, che appunto è fondamentale anche perché ci ha permesso tecnologicamente un grande sviluppo, e in certo senso che è appunto il passaggio dall'audio all'audio e video, e quindi da lì abbiamo iniziato a lavorare in modo molto forte, tuttora forse un 80% contro 20 sul video che rispetto all'audio, quindi praticamente di combinare registrazioni sia produzioni sia audio che video. Sì.
Il nome è Marcello Panni, perché avec Marcello Panni, Emma ha commencé a fare una documentazione, una recherche documentaire sulla realtà dell'œuvre de chambre contemporanea,
l'opéra
de chambre. Qui
a du mal à avoir sa place, bien sûr.
Oui, c'est la tradition de l'opéra en Italie, c'est très connu.
Très, très connu.
Mais qu'est-ce que c'est l'opéra aujourd'hui?
C'est
Et il y a de très, très intéressantes œuvres de l'opéra de chambre qui beaucoup de compositeurs italiens ont.
Continue cette tradition.
Oui, continue. Et ça a permis aussi à Emma Vinci de passer de la production de CD simplement
à la production audio
à la production vidéo, c'est-à-dire les rapports entre la création musicale, mais aussi la création vidéo, qui est évidemment dans le concept d'opéra de chambre, c'est nécessaire. Et à partir de ce moment, ils ont commencé aussi à travailler sur les rapports avec l'image.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Giuseppe Scali, que ça va bien avec Emma Vinci? Les projets sont là. Ça n'a quand même pas été toujours facile de tenir une petite entreprise, économiquement parlant, dans notre réalité d'aujourd'hui. Ça doit être quand même un combat de tenir une petite entreprise telle que Emma Vinci dans l'aujourd'hui que nous connaissons.
E quindi come vanno le cose, le difficoltà, non deve essere semplice tenere in piedi una realtà come la Emma Vinci anche da un punto di vista finanziario, organizzativo.
Sì, è vero questo. Allora, innanzitutto abbiamo fatto un grande lavoro, e questo in modo particolare Marco Cardone, nel cercare di migliorare la parte tecnologica, quindi anche le presentazioni, gli streaming. Avevamo già iniziato, si può dire, prima del Covid, noi a pensare appunto alle conferenze, alle presentazioni online, proprio perché essendo piccoli in qualche modo già spostarsi, chiamare musicisti, quindi c'erano dei costi, e quindi la cosa migliore era cominciare a lavorare a distanza.
C'était grâce al travail de Marco Cardoni che Emma ha commencé a organiser avant l'émergence Covid toute une série, un renouvellement technologique en rapport à la production de streaming, broadcast, pour permettre aux artistes de travailler avec Emma, pas simplement en présence dans un studio, mais aussi à
des lieux différents et à distance.
Donc ici, Emma était toujours en avant. anno.
Sì, ovviamente le difficoltà, soprattutto economiche, causa del Covid, si sono fatte sentire, in quanto primo non sono stati banditi tutti i concorsi e contributi statali, e quindi noi normalmente tutti gli anni vincevamo dei finanziamenti che sono stati tolti. Ovviamente, essendo un'attività, non un'associazione, non abbiamo benefici da nessuno, anzi normalmente vengono a chiederli a noi, e quindi lo studio è rallentato molto perché ovviamente l'emergenza Covid ha creato un po' di disagi, e soprattutto anche le mappature, come si diceva, le riprese nei teatri, quelli ovviamente si sono rallentate molto.
Oui, évidemment, l'emergence Covid a été, oui, parce que tous les financements qui ont été annulés,
bien sûr,
pendant des années. Et même l'activité de théâtre,
l'activité aussi,
les enregistrements dans les théâtres, dans les dernières
années, ça a coupé toute activité.
Complètement annulé. Mm. Et pour une réalité comme EMA, qui c'est une entreprise, c'est
sûr.
Pas simplement une association qui peut bénéficier c'est des ça. Autres financements.
Ça a mis en difficulté. Et cette difficulté due à la Covid, est-ce qu'aujourd'hui elle s'estompe un peu, ou ça reste encore quelque chose de difficile sur le point de vue économique et la reprise justement de toutes les activités de Emma Vinci?
Quindi queste difficoltà provenienti da Covid perdurano o sono in via,
allora,
di risoluzione?
Sì, noi ovviamente facciamo tantissime attività, quindi sia dalle edizioni, lavoriamo molto sul profilo degli artisti, i quali artisti appunto oggigiorno hanno la necessità di avere visibilità, e quindi spesso si rivolgono a noi sì per il prodotto, ma anche perché effettivamente vogliono avere maggior visibilità e quindi essere aiutati anche attraverso il nostro apparato nella conoscenza delle loro, quelle che sono attività. Ovviamente noi realizziamo dei prodotti, come si diceva prima, dove si cerca soprattutto la qualità, quindi tutti coloro che sono interessati ad avere una qualità alta nell'ambito si rivolgono spesso e volentieri a noi. Il CD, come abbiamo detto prima, fondamentalmente noi lo abbiamo, si può dire, lasciato al 100%, lo facciamo solo quando richiesto dall'artista stesso. Appunto, dove puntiamo noi è proprio creare un indotto di figure che fondamentalmente credono nella cultura, nell'arte, e che quindi in qualche modo, creando un indotto, noi sosteniamo loro e loro sostengono noi. È un periodo che non è facile, però insomma stiamo combattendo, diciamo
sì.
Questo.
Le attività dell'EMA sono différenciées, non? Ma le travail avec les artistes qui demandent à EMA la collaboration, c'est parce que EMA peut faire connaître à travers Internet, à travers tout ça, l'artiste. Donc, pour l'image de l'artiste, une image avec des produits de grande qualité, parce que ça, c'est la chose fondamentale, les rapports avec la qualité du produit. Et donc, s'il n'y a plus les CD physiques, Emma peut produire quelques copies si l'artiste le demande, mais c'est
cette nouvelle manière de faire.
Et ce rapport avec les artistes, c'est
ce compagnonnage,
non? C'est
oui.
La Emma qui aide les artistes et les artistes qui aident Emma. Donc, c'est un rapport dynamique et humain, j'ajoute, qui permet de continuer à avancer, et même si dans une grande difficulté, il y a l'espoir de continuer dans cette direction.
En tout cas, merci Giuseppe Scali. C'est ce que nous souhaitons vivement à Emma Vinci, de continuer cette chose assez qu'on ne trouve pas très souvent non plus, cette philosophie vraiment d'aller-retour, de partage, de compagnonnage. En français, ce mot est fort, le terme de compagnonnage entre des artistes, une structure telle que Emma Vinci, et c'est vraiment une belle, très 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 belle initiative. Donc à très bientôt. Alors et merci de nous avoir reçus ici à Fibiana, au cœur névralgique d'Emma Vinci. Merci Giuseppe Scali.
Per fortuna, cambiare filosofia è difficile, nel senso che cercare di fare prodotti diversi veramente difficile, perché noi ci siamo fortemente specializzati. Dico che è una fortuna, perché forse magari cambiando prodotti uno può beneficiare di qualcosa in più economicamente, però è quello che sta facendo il mondo. Credo che sia importante lavorare sulla profondità delle cose.
Heureusement, c'est difficile de changer sa propre philosophie. Et ça permet de rester sur la route, non, qu'on a choisie, même s'il y a des difficultés, et de continuer dans cette direction.
Voilà des paroles qui peuvent nous aider à méditer pour chacun, pour notre chemin. Et merci aussi à Alessandro Maggini pour la traduction de cet échange.
Merci Alain, qui est toujours un vulcan d'idées, d'activité et de créativité.
À très bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup.
Thank you.
Thank you.
Résonance sur Radio B, Impression d'Italie, Emma Vinci, Fibiana. Donc avec cet entretien passionnant et avec Giuseppe Scali, nous avons entendu dans la suite une œuvre d'une des compositrices qui travaille aussi régulièrement avec Emma Vinci et Giuseppe Scali, et plus particulièrement dans une œuvre qu'elle a imaginée et conçue pour le fagotto solo ou pour le basson solo. On n'entend pas toujours des œuvres pour solo, pour cet instrument. Et là, celle-ci, c'est une œuvre qu'elle Alessandra Bellino a composé en 2013, qui s'intitule Gran Salto, et qui a été interprétée, créée par l'excellent et le merveilleux joueur de basson qu'est Paolo Carlini. Voilà, j'espère que vous avez pu aussi découvrir toutes les facettes. On pourrait entendre pratiquement une voix chanter, toute cette manière qu'a de manière très subtile de manier l'écriture et la pensée également pour le basson de la part d'Alessandra Bellino. Donc voilà, nous voici arrivés au terme de ce second volet radiophonique, Impression d'Italie, résultat d'un voyage en Toscane qui nous permet de découvrir des multiples facettes au travers de multiples rencontres telles comme aujourd'hui avec Giuseppe Scali, le label discographique Emma Vinci. En tout cas, j'espère que vous avez eu plaisir à vivre cet échange et aussi à vivre un petit peu et partager cette fougue. Cette envie, cet engagement qu'a Giuseppe Scali à travers ce label discographique qu'est Emma Vinci. Résonance sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Vous pouvez réécouter, comme d'habitude, autant que vous le souhaitez, la présente émission en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Bonne suite avec Radio B et à très vite.